Édouard Fourcade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de SAS Institute. On va parler avec vous d'un sujet peut-être encore inconnu, le big data, alors connu peut-être des spécialistes hein, de ces données, de ces multiples données qu'on peut trouver aujourd'hui entre les SMS, les vidéos, le mobile, tout ce qu'on va trouver aujourd'hui finalement de données éparpillées un petit peu sur beaucoup de supports. On parlait pour les services informatiques de cloud, de nuages il y a quelque temps, on en est déjà au big data. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ce big data?
Alors en réalité, on trouve beaucoup de choses. Big data, c'est un vocable qu'on utilise depuis peu, mais en réalité, c'est un phénomène qui existe déjà depuis pas mal de temps, et surtout qui s'est considérablement développé avec l'essor de différentes technologies. D'une part, la téléphonie portable, et donc les smartphones qui incluent des GPS et des outils de localisation qui font que maintenant, où que vous soyez, on sait globalement qui vous êtes, ce que vous avez fait de votre journée, quels sont vos centres d'intérêt, etc. Et puis d'autre part, l'essor, bien évidemment, des réseaux sociaux qui a rendu accessible au plus grand nombre des quantités d'informations considérables concernant absolument tout et n'importe quoi. Donc derrière le big data, il y a l'explosion d'un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau. Et il y a aussi la difficulté pour beaucoup, et entre autres pour les entreprises, de faire la part des choses entre ce qui est du bruit, on va dire inutilisable, et ce qui est réellement de l'information utile pour le business.
Alors, on en est déjà aux 3V, hein, avec le volume de données. Alors ça, c'est ce qu'on constate au jour le jour avec ces millions de SMS, voire des milliards de SMS échangés, ces données. Et puis, la variété des données, ce qui est peut-être plus compliqué, vous parlez des réseaux sociaux, entre le bruit et ce qui se passe réellement à tel ou tel endroit pour une entreprise, ça peut devenir stratégique.
C'est absolument stratégique, mais encore une fois, il ne faut pas se laisser, je crois, emporter par la vague, hurler avec les loups et se laisser, oui, emporter par des vagues de convenances. L'information, elle est effectivement présente à travers les réseaux sociaux de manière déstructurée, puisqu'il y a aussi bien des commentaires textuels qui sont émis dans des forums de discussion, dans des blogs, que de manière vidéo, donc sous forme sonore. Mais c'est également la prise de conscience qu'il y a beaucoup d'informations qui sont aujourd'hui à disposition des entreprises de manière très structurée, mais qu'elles n'utilisaient pas jusqu'à présent. Je fais référence par exemple à tout ce qui provient d'éléments technologiques, de processeurs, de capteurs qui peuvent se trouver dans tout équipement utilisé dans l'industrie ou autre. Et donc en réalité, derrière ce phénomène de big data se pose réellement la question qui est comment puis-je prendre des décisions de plus en plus rapides face à un déluge d'informations? Et donc on a bien évidemment, comme on disait, ces informations dont tout le monde a conscience parce qu'elles sont visibles par le plus grand nombre, mais il y a également toute l'information qui est déjà à disposition des entreprises et dont elles ne savent pas vraiment très bien quoi faire, et en tout cas, elles sont soumises à cette contrainte de prendre des décisions de plus en plus éclairées et de plus en plus rapides. Donc c'est effectivement, c'est le traitement de très grands volumes d'informations hétérogènes pour amener à des décisions très rapides. Donc c'est cette combinaison de trois facteurs qui rend la situation un peu critique aujourd'hui.
Alors, est-ce que ça concerne forcément d'abord les directions informatiques, les fameuses DSI, ou peut-être qu'il va falloir avoir dans des entreprises, alors ce n'est pas encore pour tout de suite, mais un monsieur Big Data?
Alors en réalité, ça concerne les deux. Alors ça concerne bien évidemment les directions informatiques parce que lorsque l'on veut traiter un très grand volume d'informations, on préfère l'analogie avec un moteur de Formule 1. Si vous concevez plutôt un moteur de Formule 1 extrêmement performant, la première question qui va se poser, c'est comment est-ce que je fais pour l'alimenter avec du carburant qui est propre, pour éviter qu'il tout saute et pour lui permettre de donner le maximum de ses performances. Et donc la direction informatique, elle est bien évidemment concernée parce qu'elle doit, pour faire face à cet essor de big data, s'assurer que toute son infrastructure, toutes ses données sont en état d'être traitées de manière efficace et de manière rapide. Mais d'un autre côté, c'est également le fait ou le centre d'intérêt de beaucoup de directions métiers, parce que qu'on soit dans le secteur bancaire ou qu'on soit dans le secteur de la grande distribution ou dans l'industrie manufacturière, les décideurs ont réellement besoin, encore une fois, de pouvoir prendre des décisions business éclairées très rapidement. On peut citer plein d'exemples, mais lorsqu'il s'agit d'évaluer l'exposition au risque d'une institution financière et faire donc des calculs de tests ou des calculs de risque, ça requiert des traitements de volume d'informations absolument considérables et surtout ça requiert de pouvoir tourner un très grand nombre de scénarios dans un temps très rapide parce que le temps financier n'est évidemment pas le même que le temps de la réflexion. Il faut pouvoir prendre dans la journée quelquefois des décisions importantes alors que dans un passé pas encore si lointain, on s'autorisait à le prendre dans la semaine ou dans le mois. mais dans d'autres industries qu'on pourrait développer, que ce soit encore une fois dans l'industrie manufacturière, lorsqu'il s'agit de prévoir la probabilité de défaillance d'un équipement, les investissements sont tellement lourds qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir des interruptions non planifiées d'équipements qui ont demandé des investissements très, très, très conséquents. Donc en réalité, c'est tout le monde qui est concerné par ça.
Alors, on l'a vu quand on avait parlé du cloud, des interrogations des entreprises en disant, mais vraiment, est-ce que j'en ai besoin? Il y a des questions de sécurité aussi. Alors là, effectivement, on parle de volume, on parle de rapidité. On se dit que là aussi, il y a des questions de sécurité, c'est-à-dire comment on va pouvoir sécuriser à la fois l'accès à ces données et en même temps le fait qu'il puisse pas y avoir des intrusions dans ce big data.
Alors, je vais être un peu iconoclaste, mais je crois que c'est un peu un faux problème. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a une réalité derrière cette question-là, mais nous sommes, en tout cas en France, frappés par un syndrome, qui est vraiment le syndrome ingénieur français, qui consiste, face à toute innovation ou à toute rupture technologique, à se poser toutes les questions de savoir pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas. Et pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas? Est-ce qu'il ne faut pas faire ci d'abord et ça d'abord? Et puis on va couper le problème, on va le saucissonner, on va l'étudier sous toutes ses formes, on va le secouer pour avoir plein de raisons, plein d'excuses pour ne pas faire. Et les seules réelles avancées technologiques que l'on fait, ce sont celles qu'on a conçues nous-mêmes. Exemple, Minitel. Alors que dans la culture anglo-saxonne, une fois que les premières étapes ont été franchies, une fois que l'acte de foi, on va dire que la conviction a été établie, et qu'on a défloré le sujet de manière assez conséquente, on accepte une zone de doute, une zone d'incertitude, et on bascule dans le monde opérationnel. Donc je pense que la question de la sécurité, la question de l'accès aux données, tout ça, ce sont des vrais problèmes. Mais je ne crois pas qu'il faille attendre d'avoir la réponse à toutes les questions qu'on se pose avant d'avancer, sinon on sera les dindons de la farce.
Alors, l'autre sujet, bien entendu, c'est le ROI, le retour sur investissement, effectivement, de se dire, bon, chef d'entreprise, il va investir sur ce big data, effectivement, sur des solutions, mais je gagne quoi? Ça va être la question qu'il va vous poser, d'ailleurs, et
Oui,
qu'il posera à d'autres acteurs.
absolument. Alors, il y a certains secteurs où c'est très facile, d'autres où c'est plus difficile. Là où c'est facile, c'est lorsque l'on est, par exemple, dans des sujets autour de la détection de la fraude. La fraude aux assurances, par exemple, si on veut combiner l'exploitation de données internes à la compagnie d'assurance, telles que l'historique des sinistres, etc., avec des données externes, c'est-à-dire l'analyse de réseaux sociaux, pour essayer de comprendre si le monsieur Jean Dupont, qui a déclaré 3 sinistres au fin fond de la Creuse en 2012, est le même que monsieur J. Dupont du département juste voisin et qui a une boutique sur Internet qui vend des attachés automobiles, est-ce que c'est la même personne ou pas? Donc ça, c'est un enjeu qui est important. Donc il y a certains secteurs comme ceux-là, dans lesquels l'exploitation des big data et l'exploitation de méthodes analytiques avancées sur ces gros volumes peut apporter un bénéfice absolument évident. Lorsque l'on est dans des domaines dont on entend parler aujourd'hui, qui sont la e-réputation, par exemple, essayer de savoir comment est-ce que je dois réagir si tel et tel événement se produit, quel est l'impact sur mon image de marque, etc., on arrive à avoir une perception assez intuitive de la valeur ajoutée que peut apporter cette analyse de réseaux sociaux. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui, encore aujourd'hui, ont basculé dans la mise en œuvre opérationnelle de ça, parce qu'effectivement, là-dessus, le retour sur investissement est délicat. Cela dit, on est également dans une période de crise, hein, personne, ça n'échappait à personne. Et donc, en période de crise, tout investissement est regardé plusieurs fois avant que la décision soit prise.
Donc quelque part, le big data, enfin, les acteurs qui proposent des solutions devront faire peut-être cette preuve-là, puisque les directions informatiques aujourd'hui sont plutôt en train de freiner les dépenses.
Oui, absolument. Mais on arrive à décliner la valeur ajoutée dans plein de domaines, parce que ça peut être aussi bien le domaine de l'analyse des coûts avec un niveau de finesse extrêmement grand qui permet justement à celui qui a besoin de faire des réductions de coûts de savoir où les faire. Mais ça va être également dans le domaine industriel, la capacité donc à prévenir ou à anticiper des défaillances de systèmes qui coûtent extrêmement cher quand ils ne sont pas planifiés, mais qui coûte 3 fois rien à corriger de manière anticipée. Donc là encore, il y a des domaines applicatifs où dans lesquels la valeur ajoutée est considérable et pour lesquels les discussions sont assez bien avancées. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu de la futurologie, qui font plaisir intellectuellement parce qu'on se dit qu'on imagine qu'il y a une voie à tracer, qu'il y a de nouveaux business à inventer, qu'il y a de nouvelles choses à faire, mais le ROI n'est pas franchement évident. Donc il y a un peu de tout.
Merci Edouard Fourcade d'avoir fait le point avec nous donc sur ce big data qu'on va continuer à découvrir au cours des prochaines années. Je vous rappelle, vous êtes donc le directeur général de SAS Institute.
Merci.